Pardonnez, mais n'oubliez jamais. Ce sont les mots d'un rescapé du génocide rwandais. Nous, élèves de seconde au lycée de la Mâche, avons choisi de vous lire cette lettre et témoignage car il nous semble important d'en parler pour sensibiliser, pour ne pas oublier et éviter que cela ne se reproduise. Il nous tient à cœur de nous engager dans une action concrète pour la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Seule la terre viendra à notre secours. Cela envoyait des soldats pour nous réveiller et nous faire aller dans d'autres villages. Je fermais les yeux pour ne pas voir, pour ne pas entendre ses pleurs et ses cris. Oh, quel désespoir immense pour rêver à l'ultime point de non-retour, de la misère et de la souffrance pour confier nos enfants et à qui? Aux criminels sanguinaires qui ont tué vos mères, sœurs, frères et maris dans de grandes souffrances. Je fus emporté avec environ 70 autres Arméniens. Ils nous emmenèrent dans une corniche pour nous exécuter par la suite, à la vue de personne. En Arménie, par Serpuy-Ovagia, entre 1914 et 1915.
Nous sommes en 1914, la première semaine de juillet. Nous allions quitter notre maison paternelle. Mais pour aller où? Qui nous a appelés ou invités? Chez qui nous allons? Nous ne savons rien. Dans combien de temps, combien de jours, combien d'heures, comment s'appelle notre destination? Nous ne savons même pas cela. Nous savons seulement que nous allons quitter notre maison et partir. Si nous partons pour profiter de quelque chose, restons chez nous. Dieu merci, nous avons tout ce qu'il faut, plus que les années précédentes. Si nous partons pour mourir, qui nous tue sur place, chez nous? Je ne comprends rien. C'est impensable, mais nous devons partir.
J'avais une chance infime de fuir les bouchers de Glishengi. Je devais courir à toute vitesse, mon fils dans les bras. J'ai échoué. Je n'ai jamais franchi la porte latérale de l'église. Et je n'ai pas été la seule à avoir eu cette idée. Dans la panique générale, plusieurs personnes se sont précipitées vers la porte. Les miliciens se sont mis à tirer sur la foule. Des gens tombaient, les uns sur les autres. Je me suis couché sur mon enfant pour lui éviter les balles. Un corps m'est tombé dessus, puis un autre. Je n'ai pas bougé malgré le sang chaud qui coulait sur mon visage. Enfin, la pluie de balles a cessé. Mais mon cauchemar était loin d'être terminé. Les miliciens se sont rapprochés pour en finir avec ceux qui respiraient encore. Comme j'étais pleine de sang, ils ont cru que j'étais morte. Pour s'en assurer, ils m'ont donné des coups de massue sur la tête et sur le dos. Je n'ai pas réagi. Ils m'ont piétiné pendant qu'ils en achevaient d'autres. Je sentais leurs bottes s'enfoncer dans mes jambes. Pendant tout ce petit temps, je suis resté agrippé avec mon petit Emmanuel, que je protégeais de mon corps meurtri. Miraculeusement, les miliciens ne l'ont pas vu. Ils ont fini par quitter l'église. D'autres sont venus plus tard pour évacuer les cadavres. Ils ont violé les femmes qui n'étaient pas encore mortes. À un moment donné, ils étaient si nombreux à me violer que j'ai perdu connaissance. Je ne sais pas combien d'hommes sont passés sur moi. Témoignage d'Olivia, Rwanda 2014.
À Lyon à partir de février 1943 jusqu'à la libération en août 1944. D'abord, la fonction de directeur régional de l'UGIF, puis celle du directeur général pour la zone sud. En février 1943, la section de Schriebenschrister, commandée par Barbie, avait procédé à la fermeture des bureaux de l'UGIF, alors installée rue Sainte-Catherine, en arrêtant et en faisant déporter toutes les personnes qui étaient tombées sous la main des policiers allemands. C'est la suite de cette mesure que de nouveaux bureaux ont été ouverts à Lyon, rue de l'Hôtel de Ville, et que je fus dépêché depuis Marseille pour les diriger. La direction régionale de l'UGIF à Lyon, devenue après la dramatique fermeture des bureaux de Marseille, la direction générale pour la zone sud a accompli son véritable travail social en profondeur, en liaison avec la résistance juive. Nos bureaux officiels, avec le personnel officiel, déclarés, devaient rester en contact avec le Schriebenschrister, respectivement avec la section commandée par Barbie. Certains de mes collaborateurs et moi-même étions ainsi appelés à la Gestapo, où nous y rendions de nous-mêmes lorsque nous tentions d'arracher aux griffes des Schriebenschrister telle ou telle personne ou famille arrêtée. Nous avons eu affaire ainsi soit à Barbie lui-même, soit plus volontiers à ses subordonnés, lesquels ont été successivement pour la question juive. Un certain Velti, qui fut tué par le maquis, puis Barthélemus et Buchner. Si je me reporte à 30 ans en arrière, au climat dramatique de l'époque, je dois dire que nous avions toute l'intime conviction que ces tortionnaires, dont dépendait la vie ou la mort de nos co-religionnaires, connaissaient parfaitement le sort redoutable qui était ceux qu'ils arrêtaient. Raymond Geisman, Paris, le 24 septembre 1971.
J'avais 6 ou 7 ans. On avait des dames qui venaient nous faire le patronage. Et ces dames-là m'ont dit un jour, « Tu sais, c'est ton père qui a tué Jésus. » Donc dans ma tête, je voyais mon père clouer les mains de Jésus. Et elle me disait, « Toi, tu ne peux pas prendre l'hostie. Tu ne peux pas communier le dimanche. » Je voyais les autres faire la prière tous les soirs. Je faisais toujours la mienne. Je me disais, « Eux iront en enfer, mais pas moi. » Et quand j'en suis sorti, quand je suis rentré à la maison, je me disais toujours, eux iront tous en enfer et pas moi. J'avais presque pris mon père en grippe en me disant c'est lui qui a tué Jésus.
Ginette, France, 1939.
C'est sur ce dernier témoignage que nous allons vous laisser, en espérant que ces paroles et ces actes ne seront jamais oubliés, car l'oubli serait une ultime offense faite à la mémoire de ces trop nombreuses victimes. Nous vous remercions de votre écoute. Ce projet a été réalisé grâce à l'investissement d'une classe de seconde du lycée Lamache et la participation des lecteurs.